d'expansion économique, c'est la richesse de la commune.
Ensemble sur Calade. Le prof Patrick.
Et bonjour prof.
Salut Mathieu, salut les
auditeurs.
Bon, vous allez bien en forme ?
Ça va, très bien.
Alors de quoi est-ce que vous allez nous parler aujourd'hui ?
Ah, aujourd'hui on va s'intéresser à la politique Mathieu, mais bon, tu t'en doutes bien, on va pas s'intéresser à la politique politicienne, ça n'a aucun intérêt. Non, on va prendre un peu de recul et on va essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se cache derrière la montée dans le monde entier des extrêmes, plutôt des extrêmes à droite. Mmh. Par exemple, ce qui se cache derrière les phénomènes Trump et Bolsonaro, entre autres.
D'accord.
Petite devinette, Mathieu. Est-ce que tu sais ce qu'est un régime politique d'accumulation ?
Non, alors ça ne doit pas avoir des questions alimentaires, mais...
Non, pas vraiment.
D'accumulation, non, je ne sais pas.
Ça sent bien son terme marxiste, ça. C'est de l'analyse marxiste qui a caché derrière. Eh bien, en fait, c'est tout simplement l'ensemble des institutions politiques qui permettent au système capitaliste de fonctionner. Donc le régime politique, les partis politiques, les éléments de droit, les règles constitutionnelles, les coutumes politiques, etc. Alors... Mathieu, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que ça te manquait qu'on fasse des chroniques en plusieurs parties, tu vois.
Oui,
tu te rappelles,
ça faisait longtemps, on avait des grandes sagas.
Voilà, on a fait une chronique sur le nucléaire en trois parties l'an dernier, on a fait une trilogie blockchain, crypto-monnaie, NFT en juin. Donc, on va se faire les régimes politiques d'accumulation en trois parties.
Très bien, allons-y.
Et là, tout de suite, ça paraît pas très vendeur. Hein. Ça a l'air un petit peu chiant, dit comme ça.
Ouais, ça paraît compliqué. Bon, ça...
Écoute, t'inquiète pas, c'est plus intéressant que ça en a l'air. Parce qu'en fait, ça revient à se demander à quelle sauce on va se faire manger.
Très bien.
Tout bon. Simplement. Alors, pour t'appâter, je vais te faire un pitch de la série de trois émissions. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous, les pays développés, on a vécu sous le régime politique d'accumulation fordiste. Fordiste du nom de Henry Ford, le fondateur du groupe automobile américain Ford. Ce régime a dominé les pays développés pendant 30 ans, jusqu'aux années 70. Il consistait en une sorte de compromis entre les salariés et les directions. Exemple, moi je suis le chef d'entreprise, je te donne à toi salarié de généreuses augmentations de salaire, je me peux me le permettre parce qu'il y a d'énormes gains de productivité dans ces années-là, et en contrepartie, toi, tu consommes, tu achètes tout ce que je produis, d'accord ?
D'accord.
Donc c'est gagnant-gagnant. Le tout sur le fond d'un État qui est un État-providence, qui travaille à diminuer la pauvreté, diminuer les inégalités, par l'intermédiaire d'une intervention forte de l'État. Et tout le monde est content, n'est-ce pas ?
C'est super.
Ouais, mais il y a un problème, c'est qu'à partir des années 70, une nouvelle crise, un nouveau type de crise économique est apparu, avec un mélange d'inflation et de récession économique, qu'on appellera la stagflation. Et les économistes keynésiens, qui étaient les économistes dominants de cette époque, sont incapables de trouver une solution à ce problème. Et c'est comme ça qu'à partir du début des années 80, apparaît un nouveau régime politique d'accumulation, qui est le régime néolibéral. Alors, j'entre pas dans le détail parce qu'on y reviendra dans la deuxième chronique au régime néolibéral d'accumulation. Il faut juste dire qu'il a été dominant jusqu'à aujourd'hui, pendant 40 ans, et qu'aujourd'hui, il commence à être un peu menacé, il commence à vaciller sur ses bases. Alors, on pourrait dire, Mathieu, parce que tu es un optimiste, que c'est la crise écologique qui est en train de remettre en cause ce régime, hein, d'accord ? Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Il est attaqué par la crise écologique dans ses fondements, il est remis en cause, c'est vrai, tout à fait.
Toujours plus, ça marche pas dans un monde limité.
Ouais, ouais, ouais. Alors, à ce moment de notre récit, tu peux écoute au loin le camp politique de la gauche radicale et de l'écologie, il dit « ça y est, c'est à nous, on va faire la révolution, ouais, ouais, ouais ». Tu te rappelles, il y a trois semaines, j'ai fait une chronique sur les travaux de Bruno Latour qui appelait l'avènement d'une classe écologique, donc on pourrait penser que c'est ça.
Ouais.
Hein ?
La suite du néolibéral. Ouais.
Voilà.
On peut espérer en tout cas que ce soit ça.
Eh ben non. Je suis désolé Mathieu, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui est en train d'émerger, c'est même le contraire qui est en train d'émerger. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans le régime politique d'accumulation libertarien autoritaire. Ce régime a déjà quasiment pris les rênes de la machine politico-économique aux États-Unis et en Angleterre. Et il dispose d'alliés objectifs puissants. Dans les régimes d'Europe de l'Est, illibéraux, comme la Hongrie, la Pologne, etc. D'accord ? C'est des alliés, c'est pas la même chose. Bon, pour bien comprendre tout ça, je te propose, Mathieu, de faire mon prof Patrick. En gros, c'est ce que je sais faire. C'est-à-dire de tout récapituler et de t'expliquer pas à pas le cheminement qui nous a conduit à cette situation. On y va ?
Allons-y.
Alors, on va remonter, en fait, à l'ère moderne, c'est-à-dire à partir de la Renaissance, et plus précisément au XVIIe, XVIIIe siècle. Et on va aller en Angleterre, qui est le pays le plus puissant à l'époque. En Angleterre, un courant philosophique est très vivace et progresse énormément, c'est le libéralisme politique.
D'accord.
Alors, ces idées de base sont simples, hein, il s'agit de proposer une alternative au régime politique en vigueur à l'époque, qui était, tu le sais, fondée sur la royauté et une forme plus ou moins développée d'absolutisme politique. Il s'agit donc de proposer une alternative fondée sur l'individu et son indispensable liberté. On va citer trois philosophes importants hein, de ce courant politique. Thomas Hobbes, donc 17e siècle, qui a écrit notamment le Léviathan en 1651. Pour lui, l'état de nature est fondamentalement anarchique et donc il faut qu'un souverain prenne les choses en main. Mais Thomas Hobbes préconise une société fondée sur des êtres humains égaux en droit et sur un état qui garantisse la paix et une protection contre les ennemis potentiels. Mais attention, l'obéissance à l'État doit être fondée sur le consentement des citoyens. On voit tout un tas de choses assez révolutionnaires à l'époque. On passe au deuxième philosophe, John Locke, quelques décennies plus tard. Il va ajouter à l'analyse de Thomas Hobbes la nécessité du respect de la propriété comme droit naturel indispensable à la survie. Donc il dit, il faut des lois pour assurer le respect de la propriété. Et il faut que le pouvoir politique, il ajoute aussi, l'exécutif, les gouvernements, soient subordonnés au pouvoir législatif, à ceux qui écrivent la loi. Tiens, ça, c'est une piste intéressante. Droit de propriété, respect du droit de propriété. Le suivant, c'est un Français, plus récent, d'accord, 18e siècle. Il va compléter l'analyse de John Locke en posant la nécessité de séparer trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, donc le gouvernement, doit être séparé du pouvoir législatif, c'est-à-dire les assemblées qui écrivent les lois, et séparé également du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire la structure qui fait respecter les lois. Et bien avec ce qu'on vient de décrire, en très résumé, bien sûr, on a le socle des sociétés américaines, anglaises et même françaises modernes qui se construisent à partir du XVIIIe siècle. Ce socle politique va permettre le développement vertigineux de l'économie capitaliste au XIXe siècle, notamment avec la révolution industrielle. Pour que la description soit complète, on va ajouter un petit ingrédient économique hein, qui est fourni par Adam Smith, hein, le père fondateur de la science économique proprement dite, donc fin XVIIIe siècle. Pour Adam Smith, notre économie, il l'a décrit comme une économie de marché et il dit que l'État doit se limiter à poser des règles et à les faire respecter, des règles de fonctionnement des marchés. Il faut laisser les marchés fonctionner, il ne faut pas l'embêter, le marché. Ouais. Hein, une fois qu'on a posé des règles, on le laisse tranquille et on n'intervient pas. Ces marchés fonctionnent sur le principe de la libre concurrence. Et Adam Smith nous dit, chaque être humain doit se concentrer sur son intérêt personnel. Et en faisant ça, il contribue, sans le savoir, au bon fonctionnement de l'économie de marché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la main invisible.
Ouais.
La somme des égoïsmes individuels contribue à l'intérêt général. Cette idée-là. Enfin, autre élément important qu'a apporté Adam Smith, il dit « Tous les pays doivent s'ouvrir au commerce international, doivent commercer ensemble. » Alors qu'à l'époque, c'était plutôt le contraire qui était la philosophie dominante. Comment ? En se spécialisant chacun dans l'activité où ils sont le plus performants. Voilà. Eh bien, on a les bases, hein, le socle du régime politique d'accumulation libérale, d'accord, qui apparaît donc et monte en puissance tout au long du 19e siècle et qui va perdurer jusqu'à la fin des... jusqu'aux années 30, on va dire, okay. 1930. Ouais, parce que dans les années 30, il se passe un petit problème, c'est que octobre 1929, krach financier
ouais.
à la bourse de Wall Street, extrêmement violent, qui va déclencher une crise économique terrible qui va se répandre dans le monde entier et qui va durer durant toute la décennie des années 30. D'accord ? Et ça va mal finir, cette histoire, tu le sais.
Ouais.
Ça finit en guerre mondiale. Et c'est l'incapacité de la pensée économique de l'époque à répondre à cette crise-là qui va signer la fin de ce régime de politique d'accumulation. C'est bien pour éviter ça, le plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais le protectionnisme, etc., que nous sommes entrés après la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit, dans le régime politique d'accumulation fordiste, sur lequel je ne reviendrai pas, hein, je l'ai décrit. Mais voilà, on est arrivé, disons-nous, au début des années 80, donc régime politique d'accumulation libérale puis fordiste, et on passera la semaine prochaine au régime politique d'accumulation néolibérale qui domine depuis 40 ans, et on passera aussi à sa remise en cause par ce mystérieux régime libertarien autoritaire.
C'est des mots qui font peur, libertarien autoritaire.
Suspense, donc la suite au prochain numéro.
Merci beaucoup, prof Patrick, j'aime déjà cette série qui vient à peine de commencer. À tout bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.